des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, Paris sous les Halles. Première partie, plus vite que le cœur d'un mortel.
5-4 les trois premières, 5-4 les trois, 5.
C'est tout, madame, est-ce que vous faudrez
un chariot de l'ange de porc, Garrigou.
Quand on pense aux Halles de Paris, un vers de Baudelaire vient tout de suite en mémoire. C'est celui du poème Le Cygne, celui qui dit que la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. En effet, on peut se poser la question. Le changement de visage des Halles, avec la destruction des pavillons Baltard en 1971 et leur remplacement par un centre commercial en 1979, puis par un autre moins de 40 ans plus tard, a-t-il été une bonne chose? Que penser de la succession si rapide des projets énormes dans cet endroit de Paris, quand les pavillons avaient tenu, eux, durant 120 ans, en s'adaptant à différentes époques? Autrement dit, en matière d'urbanisme, faut-il se fier au cœur des mortels ou aux exigences de la modernité?
Dans les Halles de Paris, près de la rue Saint-Denis, y a tout un monde qui vit et qui grouille dans la nuit. Y a les mains pleines de sang qui portent des bœufs saignants. Y a le bruit des gros camions qui transportent le poisson. Et y a les trognons de choux qui roulent vers les égouts. Pyramide de carottes que l'on va lier en bottes. Des poireaux, des échalotes, des volailles qui gigotent. Des déchets pour les gargotes.
Les Halles, c'est le centre de Paris, la place du village capital. Le lieu où, depuis Lutèce, on se retrouve autour de l'église Saint-Eustache, cet endroit qui appartient à tout le monde, où se nouent des discussions et où éclatent des conflits, là où l'on se toise, où l'on s'approche, où l'on se rejette. Pour cette raison, le destin de ce quartier soulève les passions depuis des siècles, car ce que l'on décide d'en faire incarne nos choix de société et la façon dont nous vivons ensemble. C'est même le cas depuis Louis VI le Gros, quand, dans les années 1135, le marché de Paris a quitté l'île de la Cité pour s'installer hors de la ville, à proximité de la rue Saint-Denis, sur le carreau des Halles. Nous allons visiter ce quartier, en archive, pour tenter de comprendre ce qu'il signifie pour nous, ce qu'il veut dire de qui nous étions et de qui nous sommes devenus.
Paris sous les Halles est une émission de Salle des Archives en deux épisodes, proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, Charles Trout et Lily Corner.
Depuis son installation à cet endroit il y a près de 1000 ans, le marché de Paris a grossi petit à petit. On peut retenir surtout deux dates marquantes. 1769, construction de la Halle aux Blés, un bâtiment iconique de Paris qui abrite aujourd'hui la Fondation Pinault pour l'art contemporain. 1852, Napoléon III demande à l'architecte Victor Baltard de construire 10 pavillons à l'architecture révolutionnaire, tout en briques, métal et verre. Le gigantisme et la modernité de ces pavillons inspirent alors l'écrivain Émile Zola pour son roman Le Ventre de Paris, publié en 1873.
Dites donc, s'il y a longtemps que vous êtes absent de Paris, lui dit Madame François, vous ne connaissez peut-être pas les nouvelles Halles. Voici 5 ans ou plus que c'est bâti. Là, tenez, le pavillon qui est à côté de nous, c'est le pavillon aux fruits et aux fleurs. Plus loin, la marée, la volaille, et derrière, les gros légumes, le beurre, le fromage. Il y a 6 pavillons de ce côté-là. Puis de l'autre côté, en face, il y en a encore 4. La viande, la triperie, la vallée. C'est très grand, mais il y fait rudement froid l'hiver. On dit qu'on bâtira encore 2 pavillons en démolissant les maisons autour de la Halle au blé. Est-ce que vous connaissiez tout ça?
Et non, Florent Quenu, le personnage principal du Ventre de Paris, ne connaissait pas les Halles de Baltard. Le quartier avait pris sa forme nouvelle alors qu'il était emprisonné à Cayenne. Aussi, il ne reconnaît pas son centre de Paris, car oui, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel, et c'était déjà vrai du temps d'Émile Zola. Il faut dire que le poète des Fleurs du Mal n'avait que 20 ans de plus que l'écrivain de l'Assommoire. Seulement voilà, entre les deux auteurs, il y a une nette différence. Baudelaire représente le passé, l'amour du vieux Paris, et Zola, lui, représente la modernité, le nouveau Paris, celui d'Haussmann. Bien des années plus tard, cette question de l'ancien et du moderne qui se dispute le centre de la capitale va se reposer avec le choix de détruire les Halles, mais nous n'y sommes pas encore. Là où nous sommes, c'est en 1997, à l'écoute de l'émission « Ah, les Halles », dans la case des nuits magnétiques de France Culture.
Il rentrait des milliers de tonnes de camelotes dans les Halles. Et les Halles, c'est pas si grand que ça. Vous voyez, le circuit Sébasto, Louvre, Étienne Marcel, Rivoli. Il rentrait des milliers de tonnes de marchandises. Hein, bien sûr, il y avait 12 pavillons. Mais autour de ces 12 pavillons, le périmètre des Halles, ce qui était autour du périmètre, étaient des magasins qui étaient de ce produit. C'est-à-dire que les autour des pavillons de la viande étaient des magasins de demi-gros de viande. Vers le poisson, c'était les types, les escargots, les machins, les trucs qui étaient vers le poisson. Le fromage aussi. À chaque endroit où il y avait des pavillons de poisson, de volaille, de ceci, les pourtours, les périmètres, étaient bien entendu occupés par des magasins spécialisés de ce produit-là. Toute la partie entre Pont-Neuf et Louvre, il n'y avait pas un type qui vendait du poisson. Le poisson était tout, Pierre Lescot, Sébastopol. Et les camions qui livraient le poisson n'arrivaient que par le boulevard Sébastopol. Les camions qui livraient la viande n'arrivaient que par la rue du Louvre. Ils déchargeaient, l'autre derrière attendait qu'il ait déchargé pour avancer, etc. C'était pas du parking, c'était de... Parce que dans un camion de fruits et légumes, il n'y avait pas qu'un seul client. Le type pouvait avoir 50 colis rue Berger, 30 colis rue Machin, 40 colis... Alors, avec son camion, il avait les rippers, les ozos, là, qui, une espèce de demi-clodo, mais enfin, qui connaissaient les Halles par cœur, qui savaient les poissons-pilotes, là, hein. Alors, il disait au camion, mais suis-moi, viens là, machin, qu'est-ce que t'as dans ton camion? T'en as pour un tel. Alors lui, pendant que le type déchargeait, lui, il allait à l'arniflette, voir là-bas, s'il valait mieux que le camion aille par là ou par là. C'était leur... ce petit métier de poisson-pilote, qui avaient leur propre client comme camionneur, parce que le camionneur, quand il arrivait de Rivoli avec son camion à minuit ou 11h du soir, le poisson-pilote était là pour attendre, bon, alors fais voir ce que t'as dans le camion, etc. Ramène-toi chez un tel, on va le faire au diable, ça, on va le faire à main, parce qu'il disait, il vaut mieux qu'on prenne un mec qui va l'amener pour 20 colis, pour aller là-bas, on va pas perdre... Vous voyez, toute cette espèce de petit métier.
Philippe Meillard, vous êtes sociologue de formation, devenu journaliste et producteur à Radio France durant de nombreuses années. Et vous êtes également un habitant du quartier des Halles depuis autant de décennies et un grand connaisseur de l'histoire de Paris. Je crois que vous avez même travaillé un petit peu aux Halles.
Oui, j'ai fait partie de ces gens. Il n'y avait pas que des clochards, contrairement à ce que disait l'interlocuteur. Il y avait des étudiants dont j'étais et qui avaient trouvé là un moyen de gagner raisonnablement de l'argent. Il fallait juste se lever tôt. Mais on trouvait non seulement de l'argent, mais cette espèce de sociabilité très extraordinaire qu'on ne retrouve plus nulle part, qui était celle où, justement, était mélangée de parfaits clochards, des étudiants absolument pur sucre, et puis entre les deux, des gens qui étaient des demi-étudiants, des demi-clochards, des quarts de clochards étudiants, etc.
Est-ce que vous avez l'impression que ces halles qui étaient décrites dans l'archive sont en continuité directe avec la longue histoire des mille ans de marché qui se sont tenus à cet endroit?
Oui, parce que le quartier était justement un quartier qui était, si vous voulez, la chanson qui dit de New York que c'est « The city that never sleeps », eh bien c'est Paris qui était « The city that never sleeps » depuis toujours, avec ce mélange qui, à un moment donné, s'est caractérisé par le fait qu'il y avait les bourgeois qui sortaient des théâtres du boulevard de Strasbourg, du boulevard de Sébastopol, qui allaient manger la soupe à l'oignon aux Halles et qui quittaient les Halles au moment où arrivaient tous les autres, tous ceux qui, pour qui les Halles étaient le lieu du travail. Mais surtout, c'était un lieu à peu près sanctuarisé. C'est-à-dire que la police n'y faisait pas de zèle. Évidemment, s'il s'agissait de chercher Pierrot le Fou ou la bande à Bonneau, oui, mais c'était pas là qu'ils se planquaient. Mais les délinquants moyens, ceux qui étaient coupables de délits et pas de crimes, ils pouvaient être là, on les embêtait pas. Les clochards, il y avait des endroits où dormir, évidemment c'était pas très luxueux, mais il y avait des hôtels minables et puis aussi des squats. Il y avait des endroits pour l'amour, alors évidemment c'était pour l'amour physique. Il y avait des bordels, il y en avait deux, il y en avait un qu'on appelait la Chambre des députés et l'autre qu'on appelait le Sénat.
Pourquoi la Chambre des députés?
Ben, je ne sais pas, parce qu'il y avait une gradation entre la Chambre des députés et le Sénat.
Au Sénat.
Non, les moins cher, c'était la Chambre des députés, et les plus chers, c'était le Sénat. Enfin, plus cher, hein. Je ne sais pas ce que ça ferait en euros d'aujourd'hui, mais c'était très cher, ni dans l'un, ni dans l'autre. Enfin bref, c'était un endroit qui était un peu en dehors de toutes les pressions de la société, des familles, de beaucoup de choses. Ça ne peut pas se rendre, sinon par la plume.
Mais faut-il être nostalgique de ce marché inconfortable ? Dans les Halles de Baltard, on ne savait jamais très bien si on se trouvait dedans ou dehors. L'hiver, le froid et l'humidité dominaient. D'ailleurs, Émile Zola, qui y avait passé quelques nuits pour s'imprégner de l'atmosphère, notait que les paysans qui venaient vendre leur production n'avaient pas tous la chance d'être protégés sous les grands parapluies de verre, loin de là. Beaucoup restaient dehors, transis sous la pluie, offrant un spectacle que l'on ne peut pas regretter aujourd'hui. Car la vie des travailleurs des Halles était loin d'être facile, et il fallait l'adoucir par quelques fortifiants ou autres réconforts, consommés, il faut le dire souvent, en excès.
C'était oui. La vie des Halles. Car à l'époque, la vie des Halles.
Il y avait
c'était...
un café à chaque pas. À chaque pas
il y hein. avait c'est beaucoup plus de café.
Ils ont disparu, les bistrots. Il y avait des bistrots partout. Et le travail des Halles, c'était surtout assez difficile pour ça, parce qu'on avait beaucoup d'occasions pour aller au bistrot.
C'était quoi les occasions?
Ah ben tu me mets ça de côté, je vais revenir, vous voyez.
Tu me donnes un os à moi,
ouais, hein. Ou alors ça, tu mets un petit peu de rognure pour mes chiens, vous voyez. Hein. Alors ben, je te paye un canon, alors je te laisse un... Hein. Alors on y retournait 2 heures après, parce que l'hiver, vous savez, le carreau des Halles, il fallait le faire. Hein. C'était un boulot très, très dur. Ouais, et puis à 4-5 heures du matin, on cassait la croûte. Hein. Alors, on faisait des bons casse-croûtes, bien sûr. Bien.
C'était quoi les casse-croûtes de 4 heures du matin?
Ah ben, oh là là.
Ou une entrecôte, vous voyez. Ou
des entrecôtes comme ça, hein, les bouchers, c'est
ou
ça
des
mangeait.
Tripes, vous voyez. Enfin, c'était un repas, si vous voulez. Hein. Donc, on était là depuis minuit, hein. Alors, c'était un bon casse-croûte, oui, bien arrosé, avec le café.
Oui, et puis ils amenaient ce qu'il fallait.
Vous avez qu'à en parler à ma femme, oui. Elle va vous parler.
Oh oui, moi j'ai dit, ou tu quittes les Halles, ou moi c'est moi qui te quitte. Oh là là.
Finalement, qu'est-ce qu'il a choisi?
Ben, vous voyez, 61 ans. Parce que...
C'est un quartier
de la vie que ça donnait, pour moi comme pour beaucoup, il commençait à minuit. Il rentrait à 2h, 3h. Alors, ouais, je disais, va vite te coucher. Alors, les enfants étaient petits à l'époque. Taisez-vous, papa dort. Hein.
Ah, bah,
mais moi, j'attendais qu'ils soient réveillés pour partir au boulot. Parce que sinon, ils ne se seraient pas réveillés. Alors, je ne me couchais jamais avant qu'ils ne partent. Mais ça rentrait que le lendemain. Hein. Ce n'était pas une vie. Puis alors, oui, le café, il y en avait beaucoup. Le 4-21, tout le reste, ça marchait. Hein.
Ce sont des mots de tous les jours. Pourtant, ce sont des mots d'amour. L'amour, c'est ma chanson, 4 saisons la chanteront pour moi.
Bravo.
Philippe Meyer, Le Ventre de Paris, finalement, c'était pas si loin de L'Assommoir, pour reprendre des titres d'Émile Zola.
Oui, je ne dis pas que ces deux personnes sont à côté de la vérité, mais je voudrais juste dire que c'était le cas partout. Dans mon village de l'Aveyron, qui est au milieu du Causse, il y avait 1200 habitants et il y avait 22 cafés. Donc le monde paysan buvait tout autant. Le fait de boire 6 litres de vin par jour était quelque chose de tout à fait connu et sinon majoritaire, mais en tout cas très répandu.
Avec un vin qui avait peut-être un peu moins de degrés qu'aujourd'hui.
En effet, c'était un vin de comptoir. Alors effectivement, ce qui est impressionnant, moi j'ai dans l'œil encore l'interview par un journaliste de 5 colonnes à la une d'un Ford des Halles. Alors on le voit d'abord en plan lointain, on voit un homme baraqué qui a l'air pas bien grand, qui tient sa surface, et puis on s'approche et la voix off du journaliste lui dit « Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marcel. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis fort. » Vous êtes fort, ah bon, ça consiste en quoi? Ça consiste à transporter des demi-carcasses. C'est combien une demi-carcasse? C'est 280 kilos. Ah bon. Et vous mesurez combien? 1m64. Vous pesez combien? 140 kilos. Et il ajoute, mais j'ai été malade. Et ensuite, on le voit, donc, alors, on lui demande d'expliquer comment il est devenu Ford des Halles. Ben, il a dit, j'ai passé le concours. Parce qu'on est en France, il y a un concours. Alors, c'est quoi le concours? C'est porter, je crois, une quart de carcasse sur 80 mètres et réussir une dictée. Bon, alors il a réussi tout ça et il est fort. Et ensuite, on
c'est
le voit.
C'est vrai ça ou c'est
ah, je jure absolument. C'est très facile de vérifier. On le voit ensuite dans le bistrot où il a ses habitudes pour son petit déjeuner. Alors le journaliste interroge le bistrotier. Alors il vient ici tous les jours, Monsieur Marcel. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il prend pour son petit déjeuner? Ah ben, il est gourmand. Hein, il commence par 100 huîtres. Par 100 huîtres. Oui, il faut les lui dépiauter, donc on lui met 100 huîtres avant qu'il arrive dans un saladier, puis on verse un peu de vinaigre à l'échalote là-dessus. Bon, dit le journaliste, on se dit qu'il doit être en train de commencer à vaciller. Et ensuite, ben, ensuite une calotte de tripe avec des pommes sautées, ensuite du fromage et une tarte.
Alors ça, c'est le côté folklorique et amusant, mais c'était aussi très difficile. C'était un endroit très chaotique où on pouvait souffrir quand on y travaillait.
Ben, quand vous dépensez une telle énergie, quand vous portez des trucs, 260 kilos sur, c'est pas une fois dans la journée, hein, ben, effectivement, vous vous nourrissez à proportion de l'effort que vous avez fourni. Et puis, en même temps, vous avez le dos qui part vite en compote. Enfin, c'était des métiers très pénibles. Mais c'est une espèce d'humanité qui n'existe plus parce qu'on n'a plus besoin d'elle. C'est-à-dire, vous allez au Halles à Rungis aujourd'hui, tout est fait mécaniquement et il faut bien plus d'habileté que de force physique pour s'en sortir dans le transport des marchandises au Halles, au Rungis.
Sur la question de l'hygiène dont on a beaucoup parlé au moment où on a déménagé les Halles de Paris, est-ce que ça posait des problèmes d'avoir ce marché au centre de la ville où on transportait comme ça dans la rue sur son dos des carcasses d'animaux?
Eh bien, écoutez, j'attends vainement que tous ceux qui plaident l'hygiène contre les anciennes halles de Paris nous explique à quel moment il y a eu des épidémies, à quel moment il y a eu... Enfin, je dois dire que quand on ouvre les journaux aujourd'hui, on a l'impression qu'en une société hyper contrôlée hygiéniquement, il y a bien plus de cochonneries qui se promènent et qui vous donnent, dans le meilleur des cas, des gastro-entérites et dans le pire des cas, des choses bien plus graves. Bien sûr que ça fait bizarre de voir tout ça.
Au pavillon Baltard, on peut faire du pétard. Entre les artichauts, les choux, les haricots et les bottes de poireaux. Au pavillon Baltard, les joyeux bambochards. Entre les salsifis et les bottes de radis, dansent toute la nuit.
Tout au contraire du forum des Halles qui semble donc s'endormir la nuit, les pavillons de Baltard ne fermaient jamais l'œil. Il s'y opérait une fusion entre deux univers, celui des maraîchers venus de la campagne et le monde interlope des Parisiens de la nuit qui s'y arrêtaient pour marquer une étape au cours de leur virée. Dans les rues autour des pavillons, après minuit, les affaires se mêlaient au plaisir, comme au restaurant Lépidor, où se retrouvaient notamment acteurs et cinéastes.
Comme c'était un rendez-vous des professionnels du spectacle, est-ce qu'on pouvait décrocher un contrat, un travail ?
Eh bien, c'était surtout ça, parce qu'il n'y avait pas, à cette époque-là, de casting woman ou de casting man. Et tous les réalisateurs, je crois qu'il n'y a pas un réalisateur qui ne venait pas à Lépidor, tous les assistants venaient. Et bien sûr, comme il y avait une centaine de comédiens au moins par nuit, ils faisaient leur distribution à Lépidor. Et très très souvent, même de théâtre aussi d'ailleurs. Moi je me souviens avoir eu des engagements de théâtre tout à fait extraordinaires à Lépidor.
Donc il y avait un lieu de sociabilité artistique, Philippe Meyer, oui, qui était dans ce quartier. Alors pas sous les pavillons évidemment, mais les Halles c'était aussi la vie dans les rues alentours.
Oui, parce que les théâtres, en dehors de la Comédie Française qui est à deux pas, mais les théâtres de divertissement, je dirais de toutes sortes, le plus distingué ou moins distingué, c'était Boulevard Sébastopol et Boulevard de Strasbourg, il en reste encore d'ailleurs pas mal. Les comédiens, vous savez, quand vous sortez de scène, vous n'allez pas vous coucher, parce qu'il y a une tension nerveuse qui est encore palpable, donc vous allez dans un des bistrots des Halles, et effectivement, assez vite, à une sorte de quartier général s'établit, sans que personne n'ait donné la consigne, et Lépidor a été ce quartier général juste en marge des Halles, parce que c'est tout au bout de la rue Jean-Jacques Rousseau, à l'angle avec la rue du Louvre.
Il y a encore une vie nocturne et artistique dans ce quartier-là ?
Non, alors là, si vous me faites parler de ce qu'il y a comme vie dans le... Écoutez, non, il n'y a plus de vie artistique, non.
Les cafés aveyronnais, il y en a beaucoup. Alors, comme vous êtes également aveyronnais, Philippe Meyer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a tant d'aveyronnais dans ce quartier-là ?
Oh, il y a tant d'aveyronnais dans toute la bistrotaille de Paris. Pourquoi ? Parce que au moment du phylloxéra, l'Aveyron, et notamment le nord de l'Aveyron, où on faisait du vin, du mauvais vin, mais on faisait du vin, de ce vin dont on pouvait boire 6 litres. Tout à coup, cette ressource disparaît. Les familles sont nombreuses parce que catholiques. On ne tient pas compte de l'état civil. On donne, si on a des terres, on les donne à l'aîné. Les autres, faut qu'ils se débrouillent. Quelques-uns rentrent dans les ordres. Et d'autres montent à Paris, parce que c'est à Paris qu'il y a du travail. Donc c'est un peu comme l'Amérique, Paris, à ce moment-là. Donc ils montent à Paris. Et qu'est-ce qu'ils font à Paris ? Ils font les métiers que personne ne veut faire, ils portent l'eau dans les étages. L'eau. Et puis, quand la circulation de l'eau s'est généralisée, l'eau courante s'est généralisée, ils portent le vin, ils portent le bois et le charbon. Et dans les boutiques où ils viennent prendre la commande, ils mettent une planche entre deux tonneaux et ils servent un coup à boire, moyennant un peu d'argent à ceux qui passent ou à ceux qui viennent passer la commande. Et à partir de là, ils mettent en place, parce qu'il y a une solidarité qui est très impressionnante, un système qui est exactement le même système que celui des Chinois, le système de la tontine, qui leur permet de financer la gérance, voire l'achat d'un bistrot. Et ça a fait des petits jusque aux Halles, puisque précisément, le premier Café Coste, c'était aux Halles.
Déjà sous l'occupation en 1943, on avait pensé à sortir les Halles de Paris, à les rapprocher des nœuds routiers et des grandes lignes de chemin de fer. Mais ce n'est que le 6 février 1959 que la décision est finalement prise, avec pour horizon un déménagement une dizaine d'années plus tard. Cette année-là donc, en 1959, le projet divise entre les étals.
Je suis absolument d'accord pour le déplacement des Halles. Il est inadmissible que les Halles qui ont été construites sous Napoléon III pour nourrir 1 700 000 habitants, qui sont en passe d'en fournir 7 millions actuellement, nous vivons absolument dans l'étranglement. Il y a des camions de marée qui arrivent à 2 heures du matin au Châtelet, qui ne sont pas déchargés à 6h30 à la cloche.
Je suis contre le départ des Halles, ça perdrait tout le charme de Paris, et je dis une chose, que il devrait y avoir un peu d'aménagement, parce qu'avec tous les cachots sur les trottoirs, à partir de certaines heures, moi j'ai une paire de bancs tous les jours à m'acheter.
Alors, il y a une discipline qu'il faut dans les Halles, si tu veux que ça marche.
Oui.
Pas de camion de 5h à 9h pendant les transactions, pas de camion aucun. Faites ça par des répartitions avec des gardes mécaniques, il y en a assez pour ça.
Et puis les gardes
mécaniques, ça le fait bien. Ça le sac le fait bien, ça lui coûte bien 20 000 francs, mais il les regagne puisqu'il part à 4h du matin et ici ils viennent à 10h du soir.
Mais
et à 8h.
Mais son camion.
Mais à 8h, c'est pas déchargé.
Mais oui, mais c'est camion.
Mais les mets au Châtelet, oui.
Ah, voilà. Bon.
Et voilà, c'est au Châtelet qu'il fallait mettre les camions. Philippe Meyer, pour vous, pourquoi ce déménagement des Halles à Rungis et que faut-il en penser?
Alors je dirais, ce qu'il faut penser, c'est plutôt du comment que du pourquoi. Le pourquoi, il y a une raison qui est en effet, qui a été esquissée, même exagérée par l'un des intervenants, qui est qu'en effet, les Halles avaient été conçues pour une période où la région parisienne n'était pas la région parisienne, et donc il y a un problème. Il faut en effet dégager un certain nombre de pavillons, probablement les deux pavillons les plus problématiques, celui de la viande et celui du poisson. Après quoi, nous sommes avec tous ces pavillons, dont il faut rappeler, peut-être même apprendre à certains de nos auditeurs, qu'il y a un sous-sol, chacun a un sous-sol qui est presque aussi spacieux que le pavillon qui est sur terre.
Et qui sert d'entrepôt.
Et qui sert d'entrepôt et qui sert à maintenir une certaine température, par exemple pour les fromages. Alors la question c'est, à partir de là, une fois le transfert de la viande et des poissons fait, qu'est-ce qu'on pouvait garder? On pouvait garder le beurre, les œufs, le fromage, on pouvait garder les fleurs, on pouvait probablement garder les fruits. Et que faire du reste des pavillons? Eh bien justement, ne pas, comme on l'a fait, vouer ça uniquement au commerce. Et quel commerce? Le commerce le plus cheap du monde, avec d'ailleurs au début les prétentions les plus extravagantes. Parce qu'il faut savoir que les promoteurs du Forum des Halles pensaient que ce serait le prolongement du Faubourg Saint-Honoré. Au premier étage des Halles, il y avait Saint-Laurent, il y avait Tarlazzi qui était le couturier à la mode pour les executive women, et il y avait Pinet qui était le chausseur à la mode. Inutile de vous dire que les clientes habituelles de Saint-Laurent, quand elles sont arrivées au Forum des Halles, elles ont vu plus de maghrébins et de gens venant du sud du Sahara en 5 minutes qu'elles n'en avaient vu dans toute leur vie et qu'elles se sont empressées de fiche le camp. Il a fallu fermer et souvenez-vous qu'au début, la FNAC a été jugée trop crottée avant la destruction des pavillons de Baltar, qui est une sottise, qui est vraiment un crime contre l'urbanité. Il y a eu des projets formidables, mais c'était la modernité. C'était Pompidou et c'était l'idée qu'il fallait tout mettre à l'heure du commerce et sortir la France de son marasme culturel identitaire.
Les Halles, 1h du matin, bon nombre de Parisiens sont venus assister au chant du cygne de ce qui fut le ventre de Paris depuis 8 siècles. Ils ont voulu contempler une dernière fois l'étrange atmosphère qui faisait la réputation de ce quartier. Cette nuit encore, mais avec peut-être un peu plus de paroxysme de la part de ceux qui venaient s'amuser, le travail et le folklore se côtoyaient. Pendant que les uns se promenaient ou bien encore fixaient sur la pellicule cette grande dernière, les autres, mélancoliques, continuaient à décharger les légumes dans une débauche de camions venant de toutes les régions de France et de pyramides de cajots de légumes frais.
Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous?
Normalement oui.
Quoi?
Ça sera pas le même boulot. C'est-à-dire ça sera un peu l'usine, quoi.
Alors, cette dernière soirée?
Eh bien, cette dernière soirée, elle arrive. Il y a longtemps que nous l'attendions. Maintenant, nous n'y croyons presque plus. À plusieurs reprises, on a reculé l'échéance de ce départ pour Rungis, et puis aujourd'hui c'est arrivé. Et les Halles que nous avons connues, sur les pavés desquels nous avons traîné pendant, pour ma part personnelle, 23 ans, et je n'en ai pas encore 45, donc j'y suis rentré jeune dans l'effort des Halles, ces Halles disparaissent. Mais il y a tout de même un côté poignant pour nous qui aujourd'hui voyons disparaître ces Halles dans un côté d'allégresse, vous voyez. On aurait préféré être seul et voir s'éteindre notre quartier, si l'on peut dire. Enfin, au moins le quartier où nous avons travaillé, tout doucement, gentiment, en faisant une petite fête entre amis.
Est-ce que vous diriez, Philippe Meyer, que ce centre de Paris est passé d'un lieu de travail à un lieu qui s'apparente davantage à un lieu de loisirs?
Oui, un lieu de commerce, un lieu de consommation, beaucoup plus que de loisirs, parce qu'à part le cinéma multisalle qui est à l'intérieur.
Mais le commerce est vu comme un loisir.
Oui, alors dans ce cas-là, en effet, on peut dire que c'est devenu un univers de consommation loisir. D'abord, premièrement, il faut quand même rappeler qu'il n'y a aucun rapport de causalité entre la nécessité de déplacer une partie des halles et la destruction des pavillons de Baltar. Aucun. Il y avait au contraire toutes les raisons de réfléchir à des usages multiples et notamment à y marier le commerce et la culture. Donc ça, c'est la première faute impardonnable. La deuxième, c'est d'avoir fait du Forum des Halles un lieu qui n'a qu'un seul type d'activité, celle que vous venez de dire, le shopping comme loisir.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a aussi voulu mettre à distance ce qu'on voulait peut-être plus voir, c'est-à-dire en effet ces carcasses d'animaux, ces poissons peut-être malodorants, je ne sais pas, qu'on a voulu aseptiser un petit peu le centre de Paris?
Dire que les poissons sentaient le chèvrefeuille serait probablement exagéré. Non, ça sentait fort, évidemment. Mais de toute façon, encore une fois, il y avait un problème de quantité qui obligeait, parce que j'entendais dans les témoignages quelqu'un qui disait « Ouais, mais il faut mettre de la discipline ». Mais c'était pas de la discipline. Il y avait quelque chose qui tenait lieu de la chorégraphie. Moi, j'ai toujours été stupéfait de voir ces petits bonshommes qui réglaient la circulation, qui disaient au camion « Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là ». Il y avait quelquefois des conflits. Mais ces conflits étaient l'exception. Donc, je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'ils sentent bon ou qu'ils sentent mauvais, sortir la viande et le poisson des halles. Pour le reste, je continue à soutenir qu'il fallait laisser certains marchés, qu'il fallait surtout pas détruire les pavillons et qu'il fallait réfléchir à faire en sorte que ce lieu reste un endroit où il y avait quantité d'activités différentes et qui continue à attirer des gens de toutes sortes.
Cette âme perdue des halles, un homme avait bien su la saisir, il s'agit de Robert Doisneau. Le photographe est demeuré inconsolable de la perte de cet endroit où il aimait se rendre pour saisir par l'image des moments de vie. Il en parlait dans cette émission de 1968, retrouvée sur les étagères de la salle des archives.
Pour moi, c'est un larcin qu'on fait au peuple de Paris. Enfin, je sais bien, je n'ai pas chargé de faire de l'urbanisme, mais on fait passer les plus gros camions dans les plus petites rues, c'est pas normal. Mais peut-être justement à cause de ça, à cause de la malcommodité des lieux, à cause d'un tas de choses qui sont pas rationnelles, ça a déclenché une espèce de bonne volonté et d'humour que Paris va perdre. L'humour, enfin, vous voyez, par exemple, le grand boucher sanglant qui se met au bar d'un bistrot et qui dit, d'un ton très très 16e, « Garçon, voulez-vous me mettre en rapport avec une bouteille de Beaujolais ?» Ça, ce n'est pas le folklore du titi parisien qui est une chose éculée et dégoûtante.
Ça n'arrivera pas à Rungis.
Ça n'arrive... Oh, Rungis, on verra. Dans quelques années, ça va se lézarder et il y aura la place pour ça, peut-être. Mais pour le moment, non. Ceux qui vont détruire, c'est surtout cet esprit. Et je crois que cet esprit, dans le fond, Léal, c'est, je vous parle de cet humour, eh bien, les gens qui vont aux halles retournent dans les quartiers et transportent cet humour dans le quartier. Et je crois que ça, c'est un peu, on dit l'âme de Paris, mais je crois que ça en fait un peu partie.
Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire la part des choses, Philippe Meyer, entre la tentation de la nostalgie, comme on l'entend dans cette belle archive, et, ma foi, ce qui a été réellement perdu, qui n'est peut-être pas si grave que ça. Peut-être qu'on rigole encore dans les halles, quand même.
Alors, je vais défendre la nostalgie. La nostalgie, c'est ce qui caractérise l'être humain. Je ne crois pas que les animaux éprouvent de la nostalgie. La nostalgie, c'est le regret des choses et des gens qui ne sont plus et qui ne seront plus. Et celui qui n'éprouve pas de la nostalgie, me semble-t-il, est un monstre.
Est-ce que vous êtes allé à Rungis ?
Oui, bien sûr. Je suis allé à Rungis, j'ai été même récemment juré du concours du meilleur jambon de Paris, sauf votre.
Et l'ambiance ressemble-t-elle un petit peu à ce que vous avez connu, Joël ?
Non, bien sûr que non. Ce qui ressemble, ce sont les corporations. Par exemple, sans me vanter, je suis membre de la corporation, la confrérie de Saint-Antoine, qui est la confrérie des charcutiers, Saint-Antoine et son cochon. Oui, il y a quelque chose qui reste dans les réunions de cette confrérie, qui ressemble un peu, mais c'est un entre-soi, si vous voulez. Les halles, c'était le contraire de l'entre-soi.
Une fois tranchée la question du transfert des halles à Rungis et acté qu'il n'y aurait plus de très grands marchés au centre de la capitale, il restait encore à décider que faire de ce grand espace laissé vacant. C'était le début d'une nouvelle histoire qui n'allait laisser personne de marbre, comme nous allons le voir dans notre second épisode.